septième rue. T'hallucines, tu vois de la tête en train de besogner un pendu. Malheureux, Texas blues. Malheureux, Texas blues.
Devant la pluie, la trouille et moi, on s'est arrangé comme on peut. Mon courage s'endort parfois devant la télé comme un vieux. Je ne tiens plus à me hisser tout en haut du mât de cocagne. Sa roue de charrette au perché me fait l'effet d'une montagne. Quand ils auront tout fait sauter en poussant à fond les moteurs, je reviendrai pour leur livrer quelques chansons en triporteur. Bien haut mon chapeau, en croisant les gens, c'est normal. Nous serons seuls bien assez tôt pour se planquer dans un journal. Je laisse ma part du gâteau, hein, qui peut encore l'avaler. Si je perds quelques kilos, c'est toujours cela de gagner. Quand ils auront tout fait sauter, en poussant à fond les moteurs, je reviendrai pour leur livrer quelques chansons en triporteur. Tu aimes tracer au bâton un chemin derrière tes pas, et qu'en suivant bien son sillon, je suis toujours sûr de ma voie. Un beau jour, si tu n'as pas peur, et si tu mets bien ta cagoule à la proue de mon triporteur, tu m'indiqueras les nids de poules. Quand ils auront tout fait sauter, en poussant à fond les moteurs, je reviendrai pour leur livrer quelques chansons en triporteur.
Autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe aux vermicelles. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parle, un tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça: à mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe, et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. « Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Bonsoir, merci d'être à l'écoute de Radio Libertaire, l'émission antimilitariste de l'Union Pacifiste de France, sur Radio Libertaire 87.9. Si vis pacem, c'est vraiment à l'ordre du jour. Si vis pacem, para pacem. Il faut préparer la paix si l'on veut la paix. Et la paix est possible, mais ne tombe pas du ciel. La paix doit éclairer et éclore des cœurs. Quand ils s'apaisent, avec une raison éclairée, par la lumière du jour présent, et en fermant le grand livre des comptes à rebours, embourbé dans la haine ancestrale qui obscurcit et pervertit les esprits. Et vous savez, surtout, ce qui est perverti, c'est l'esprit des armées. Vous pouvez nous appeler au studio pendant les pauses musicales au 01 43 71 89 40. Et vous pouvez vous abonner, bien sûr, à notre publication mensuelle, Union Pacifiste, dont on vous donnera tout à l'heure tous les détails. Donc, préparez un stylo et un papier, ce sera très utile. Mais, je vous dis déjà, vous pouvez trouver aussi nos publications et nos activités pacifistes et culturelles et musicales à la librairie Publico, 145 rue Amelot. Et le téléphone, c'est le 01 48 05 34 08. Alors, cette paix dont tout le monde rêve, dont tout le monde nous parle, y compris les militaires de France et de Navarre, cette paix, elle doit germer dans le terreau, ensemencée de, devinez quoi, de petits pardons, de mini-pardons, nano-pardons. Commencez par faire vos listes de griefs, par priorité décroissante, puis repérez la plus petite faute, la plus mince injustice, le plus léger reproche que vous pouvez, à la rigueur, pardonner. Commençons par un petit pardon. Alors, quel est le programme de notre émission d'aujourd'hui ou de ce soir? Ce sont quatre thèmes qui, à l'heure actuelle, se touchent. Il y a bien sûr la question de l'ONU et du traité d'interdiction des armes nucléaires porté par ICANN mondial et ICANN France et qui a eu d'importantes réunions aujourd'hui même, cette semaine même à l'ONU, à New York, et dont demain sera la journée de clôture, la semaine contre les armes nucléaire. Donc ça, c'est notre premier point. Après, on parlera de l'objection de conscience qui est également complètement d'actualité dans la guerre qui se déroule entre l'Ukraine et la Russie, parce que des centaines et des milliers de soldats ukrainiens ont déserté et ont fui l'Ukraine vers la Pologne, vers la Lituanie et vers l'Europe de l'Ouest, parce qu'ils ne veulent pas servir. Ils sont considérés pas comme des déserteurs, et ils sont puni de 12 mois d'emprisonnement actuellement. À un moment donné, le gouvernement ukrainien avait même envisagé la peine de mort. Vous voyez, les choses se répètent sinistrement quand la tête ne fonctionne pas bien. Il y a Yuriy Yazenko qui s'est beaucoup investi dans ce combat pour la défense de l'asile à accorder aux objecteurs de conscience qui le demandent. Yuriy Yazenko, grand militant pacifiste ukrainien. Après, troisième sujet que nous allons aborder, c'est évidemment le SNU. Le SNU, l'esprit de guerre, qui est une forme de psychose, perversité du fonctionnement mental de l'esprit humain. Le SNU qui semble vouloir aussi évoluer vers une sorte d'obligation à laquelle plus personne ne pourra se soustraire, on vous en parlera. Et puis le dernier sujet, évidemment, c'est, ça semble être le plus éloigné des questions militaires, c'est le climat. Parce que demain vendredi 1er décembre, aura lieu à Dubaï le sommet de l'ONU aussi, la COP 28, la COP est pleine, comme disait l'autre humoriste, très bien trouvé, la COP 28, la coupe est pleine des pollutions, des empoisonnements, de l'intoxication, de toutes sortes d'environnements dont l'être humain fait partie, et sous le titre du climat. Ça commence aussi avec l'industrialisation au 19e siècle, qui a entraîné le besoin de pétrole, et qui a, avec le colonialisme qui était l'outil de la conquête du pétrole, dont nous n'avons pas des masses chez nous, a déclenché la Première Guerre mondiale, même si la cause déclenchante était bien sûr autre chose qui s'est passée dans l'Empire austro-hongrois, dans la future Yougoslavie, vous le savez. Voilà les quatre sujets. Et pour vous laisser prendre votre stylo et votre papier, et pour respirer, on va vous faire passer une chanson qui parle des génocides. Parce que le XXe siècle était l'inauguration des génocides de masse épouvantable, effrayante. Et c'est d'ailleurs Gandhi qui, au cours de son procès en 1922, a forgé le terme de crime contre l'humanité. Mais c'était bien avant que le génocide et le crime contre l'humanité ont pu entrer dans la législation international. C'était après la Deuxième Guerre mondiale qu'on a créé le tribunal international, qu'on a créé justement la nouvelle charte de l'ONU qui a succédé à la Société des Nations qui a fait Flores, c'est un mot beaucoup trop gentil, qui a échoué sur beaucoup de plans, donc qui a été fermé en 1945 et dont l'ONU a pris la relève en 1947. On vous en parlera après une première respiration musicale.
Ils sont tombés sans trop savoir pourquoi, hommes, femmes et enfants qui ne voulait que vivre avec des gestes lourds comme des hommes ivres, mutilés, massacrés, les yeux ouverts d'effroi. Ils sont tombés en invoquant leur Dieu au seuil de leur église ou le pas de leur porte. Un troupeau de désert titubant en corde, terrassé par la soif, la faim, le fer, le feu. Nul n'éleva la voix dans un monde euphorique, tandis que croupissait un peuple dans son sang, L'Europe découvrait le jazz et sa musique. Des plaintes des trompettes couvraient les cris d'enfants. Ils s'envolaient pudiquement, sans bruit, par milliers, par millions, sans que le monde bouge. Venant à l'instant, minuscule fleur rouge, recouvert par un vent de sable. Et puis l'oubli. Ils sont tombés, les yeux pleins de soleil, comme un oiseau qu'envole une balle fracasse, pour mourir n'importe où et sans laisser de traces, terrassés, oubliés dans leur dernier sommeil. Ils sont tombés en croyant ingénus que leurs enfants pourraient continuer leur enfance, qu'un jour ils fouleraient des terres d'espérance dans des pays ouverts d'hommes aux mains tendues. Moi, je suis de ce peuple qui dort sans sépulture, qui a choisi de mourir sans abdiquer sa foi, qui n'a jamais baissé la tête sous l'injure, qui survit malgré tout et qui ne se plaint pas. Ils sont tombés pour entrer dans la nuit éternel des temps, au bout de leur courage, la main les a frappés sans demander leur âge, puisqu'ils étaient fautifs d'être enfants d'Arménie.
Voilà un petit écho de 1915 par la voix du grand artiste Charles Aznavour, qui nous a quittés il y a déjà quelques années. 1915, premier grand génocide. Et presque en même temps, un an après, les accords Sykes-Picot. Qui était Sykes-Picot? C'était des deux hauts représentants de la Grande-Bretagne et de la France qui se sont partagés les morceaux qui commençaient à tomber de l'Empire ottoman, l'Irak, la Syrie et Israël. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'était la Palestine. Voilà. Et on attribuait donc, par cet accord, cette terre promise au peuple dont c'était le berceau ancestral, mais qui était sorti de son berceau et sur place étaient restés d'aussi anciens sémites que lui, les Arabes. Et donc, ça a donné lieu, après la Deuxième Guerre mondiale, en 1948, à la Première Guerre israélo-arabe, qui a donc permis le repeuplement de ce territoire par le peuple juif de tous horizons. Et vous savez tous actuellement que ce territoire est en très grande souffrance, et personne ne peut réclamer le monopole de la souffrance. Il y a de la souffrance immense de tous côtés, de part et d'autre, et des exactions de part et d'autre, des injustices de part et d'autre, et les deux parties réclament leur humanité à corps et à cri, tout en s'étripant comme des petits enfants équipés d'engins monstrueux, fabriqués par des monstres ultra intelligents en ce qui concerne la technique et la technologie. Œil pour œil, dent pour dent, c'est ce qu'avait dit Gandhi. Une stratégie pareille, elle rend tout le monde aveugle et fait perdre toutes ses dents à toute la planète. Parole de Gandhi. Il y a en ce moment une répétition d'une manifestation pacifiste israélo-palestinienne pour un cessez-le-feu qui avait commencé dès le 18 novembre. Donc ça fait 10 jours. Dans la guerre, il n'y a aucun vainqueur. Et refuser de tuer, ce n'est pas un crime. Et surtout pas un crime contre l'humanité. Vous, les dictateurs, qui punissez de mort ou d'emprisonnement ceux qui refusent de servir dans vos amis, dans vos armées, pardon. Oui, d'ailleurs, vous prétendez que vos soldats et vos armées sont vos amis, c'est du pipeau. En tout cas, ce n'est sûrement pas un crime contre l'humanité. Le serment de la fidélité à la patrie à l'heure des armes nucléaires, c'est une trahison. Servir dans ces armées-là, c'est un crime contre votre propre humanité. Donc la dénucléarisation, pour revenir aux armes nucléaires, c'est le grand combat, parce que il va de soi pour les pacifistes ou pour les gens de bon sens, qu'une programmation militaire française de 413 milliards pour les 5 années à venir, c'est une absurdité, sauf pour les profiteurs de guerre. Et pour l'école, des fariboles, sans parler de retraites pour lesquelles vous n'avez que des clopinettes. Tout pour l'armée, rien pour les citoyens. Ce n'est plus supportable à notre époque où l'éducation prétend avoir fait des progrès. Surtout que l'UNESCO, qui a son siège à Paris, est une émanation de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui dans sa charte proscrit les guerres fratricides et qui prescrit la négociation honnête et intègre avec des ennemis avec lesquels néanmoins on s'engage à se mettre d'accord. Je vais vous lire un édito de notre mensuel Union pacifiste. Le fleuron de l'armée se fanera-t-il en 2024 ? Il vient de paraître, c'est le numéro de décembre 2024. Longue rade du tonnerre de Brest, date de 1965, avec l'expropriation des fermiers, décidée en urgence extrême par le général de Gaulle, à la place des anciennes carrières. 6000 tonnes d'acier et plus de 300 000 mètres cubes de béton ont été coulés, dont un tiers compressé pour le blocus central, qui doit pouvoir résister à l'explosion d'un missile modernisé. Est-ce que les missiles modernisés vont nous défendre? Tu parles. Ils nous font peur pour faire leur peur. En plus des 11 000 mètres carrés de jetée et des 2 bassins de Radoub, la zone centrale de l'île cache le site pyrotechnique d'entreposage des missiles modernisés. L'isthme est devenu un parking de 2 km, l'isthme de l'art. De Brest, hein, c'est en France. Ce isthme est devenu un parking de 2 km de long sur 1 de large, avec 2 installations de base secrètes. Ne le dites à personne. Lancé en 70, le redoutable y a mouillé jusqu'en 91. Mis au rebut au musée de Cherbourg. Vous voyez, nos impôts, ils vont dans les musées après. Actuellement, 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins seraient opérationnels. Le Triomphant, le Vigilant, le Téméraire et le Terrible, chacun a coûté 4,5 milliards d'euros. Et pour l'école, des fariboles. Un revêtement anti-sonar et anti-algues de carapaçonne, les carapaçonnes de bitume et latex noir. C'est le dernier cri de la modernité. Objectif, qu'il y en ait au moins un toujours en patrouille sous l'eau. Un sous-marinier à 1800 euros par mois doit mesurer au moins 1,54 m. Ne pas bégayer et avoir un coefficient de mastication de plus de 30%. Une heure d'immersion équivaudrait à une journée de travail. Malgré des calculs de ce tonneau, la retraite ne s'obtient qu'à 45 ans. Pour la retraite des clopinettes. Le ministère des Armées déclare qu'il n'est pas responsable des radiations, causes de cancer et de leucémie, ni de risques d'infertilité, ni des difficultés respiratoires en espace ultra confiné, pauvres marins, pauvres soldats, soumis, obéissants, ni des profonds problèmes psychologiques d'incarcération pressurisée. Les Achuas résident en Amazonie. Pour eux, plus sensés, ne vivant pas sous l'eau, la nature n'existe pas comme une réalité séparée de la vie sociale. La plupart des plantes et des animaux sont dotés d'une intériorité qui rend possible la communication avec eux. Cela permet de nouer avec les non-humains des relations régies par les mêmes conventions que les rapports innés. Sans hiérarchie, l'homme n'est qu'une infime partie de la nature. Il doit réapprendre à rêver. Oui, parce que les rêves sont les racines de toute humanité supérieure. Une terre porte une civilisation aussi longtemps que celle-ci prend soin de son sol. Si l'usage des sédiments a été la grande affaire des établissements humains, aujourd'hui, dragage, forage, extraction, parage, bétonisation suppriment cette minéralité fluide. La vraie civilisation reste aux antipodes du terrorisme complotiste des chefs d'État profiteurs de guerre. Les 43,9 milliards du budget de l'armée française, rien que pour les armes nucléaires, ignorent la mort dans la rue des 600 SDF par an, chez nous, malgré 3,1 millions de logements vacants. Il reste 4 millions de personnes mal logées. Selon l'INSEE, 9 millions vivent sous le seuil de pauvreté. Les 115, le numéro téléphonique 115, refuse chaque soir un hébergement à plus de 6000 personnes, dont 1700 enfants. Et sans doute ce chiffre est en constante augmentation. Désarmer consiste à soigner l'enfant en nous. Retrouver en 2024 le temps perdu passe par les contes, les légendes des anciens et toutes sortes d'histoires qui peuvent sauver une vie. Au bord du chaos se trouve parfois l'issue. La lueur est au bout du tunnel. Abolir le service national universel, tarir le renouvellement des guerriers, supprimer l'armée, tel est le poème aux objecteurs offert par l'Union pacifiste. Abonnez-vous!
Avant la famille Tutsi, aller voir la famille Hutu, y avait pas le moindre souci, ils se faisaient des poutous. Ils se tenaient par la main, évoquaient les lendemains, parlaient du prix du manioc, prêtaient volontiers leur coq. Mais le monsieur qui vend des canons est venu leur dire non de non. Plus question de vous aimer. Ensuite il a affirmé aux Tutsis que les Hutus se prennent pour les Manitou. Et aux Hutus, les Tutsis ne rêvent que de les voir oxy. Moi, je vous vends la guerre, vous n'avez plus qu'à la faire. Une Kalachnikov ou un missile rendent les femmes des ennemis dociles. D'autant que ça n'est pas leurs époux morts qui pourront vous causer le moindre tort. Quand le tonton de Serbie allait chez le tonton Kosovo, ils échangeaient leurs brebis, ils se vendaient des petits veaux. Et leurs enfants s'aimaient bien, ils se tenaient par la main, ils se baignaient dans le Danube, écoutaient les mêmes tubes. Mais le monsieur qui vend des canons a dit c'est fini, nom de nom. Plus question de vous aimer. Ensuite il a affirmé aux Serbes qu'un Kosovar ça vaut pas un pet de canard. Il y a un slogan qu'on applique, purification ethnique. Moi je vous vends la guerre, vous n'avez plus qu'à la faire. Avec le Coran ou l'Évangile, on obtient de jolies guerres civiles. Vous pouvez mettre à sac les maisons sans pour autant risquer la prison. Quand le grand-père irakien et le grand-père iranien troquaient leurs tapis anciens, le pétrole ne valait rien. De Téhéran à l'Euphrate, on se partageait les dattes. Contre un sac de haricots, on louait son bourricot. Mais le monsieur qui vend les canons a dit battez-vous car sinon mes blindés, mes bazookas vont me rester sur les bras. Irakien, il est grand temps d'annexer le Khouzestan. Et toi l'Iranien, j'espère que tu ne vas pas te laisser faire. Moi, je vous vends la guerre, vous n'avez plus qu'à la faire. Vous aurez des femmes en ribambelle et bien entendu même les pucelles qui dans vos bras se retrouveront nues, n'iront sûrement pas se plaindre à l'ONU.
Quelques faits, quelques chiffres fournis par Rémi Thomas, fidèle pacifiste et contributeur à notre mensuel Union pacifiste. Selon La Croix, quotidien, entre le 24 janvier 2022 et le 31 juillet 2023, la France a fourni 500 millions d'euros d'armes et d'équipements à l'armée ukrainienne. Selon Le Monde, l'aide militaire de Paris à Kiev atteint 3,2 milliards, mettent fin. 3,2 milliards le 10 novembre 2023, donc il y a 15 jours. Depuis 2013, Paris vend à Israël pour 20 millions d'euros par an de composants militaires Thales. Ces exportations rendent la France complice de la guerre à Gaza. Elle pourrait être poursuivie sur la base de ses propres engagements internationaux. Les États ont le devoir de prévenir le risque de génocide. Mais rassurez-vous, l'Allemagne n'est pas en reste. Elle est le fournisseur numéro un en armes de l'État d'Israël. Évidemment, vu le triste et déplorable souvenir de la Shoah durant la dernière guerre mondiale, ces pays se sont obligés de réparer et de compenser et de se faire pardonner jusqu'à épouser des causes inépousable. On n'épouse pas n'importe quelle cause. Lorsque la victime devient bourreau, il faut retenir sa main fraternellement, mais il faut retenir sa main, ne pas l'encourager à faire pire que ce qu'elle a subi auparavant. Du pognon, il en reste pour la guerre, écrit la Tribune le 12 novembre. L'Ukraine va augmenter ses dépenses militaires en 2024. Le budget consacré à la défense atteindra l'équivalent de 43 milliards d'euros, soit 22,1% du PIB. Le gouvernement a néanmoins estimé avoir besoin d'une aide de 41 milliards de dollars de la part des pays alliés. Et qu'est-ce que ce sera lorsqu'elle fera part totalement de l'Union européenne, ce qui n'est pas encore le cas à l'heure actuelle. Mais elle est très ambitieuse. Elle veut augmenter ses effectifs militaires de 250 millions de jeunes par an. Ce qui fait qu'elle rafle des jeunes, même dans la rue, contre leur plein gré et contre leur plein su en Ukraine. Et la Russie, elle recrute, comme vous savez peut-être, parce que les informations circulent mieux aujourd'hui, mieux que jamais, elle recrute dans les prisons. On a fait ça déjà pendant les deux guerres mondiales, mais depuis la charte de l'ONU, ce sont là des pratiques honnies et bannies et poursuivies par le tribunal international. Et oui, quand on fait la guerre, on supprime beaucoup de choses, dont l'objection de conscience qui existait en Russie, qui existait en Ukraine, et elle est suspendue, sinon supprimée. Recrutement de force. Si cela ne vous hérisse pas, vous qui avez passé par notre système éducatif, qui a prôné la fraternité et la paix, je m'arrache les quelques cheveux qui me restent. Pendant la guerre, donc, les ventes continuent. Les ventes, pas de bonbons, mais de Kalachnikov, de fusils, de bombes, tout ce que vous voulez. Helsinki a commandé un système intitulé « Fronde de David » de défense antimissile auprès d'Israël pour 317 millions d'euros afin de protéger la Finlande, territoire frontalier de la Russie sur 1300 kilomètres. Et la Finlande, elle a eu le mérite d'être présente cette semaine à l'ONU, lors de l'Assemblée des plus de 150 États qui se sont engagés dans le traité d'interdiction des armes nucléaires et auquel la France et ses acolytes de l'OTAN ont refusé de se joindre, ne serait-ce qu'en tant qu'observateur. La Finlande y a assisté. Elle est toujours contre le Tian, mais elle y est allée comme observateur, comme l'Allemagne et comme la Belgique. Ils ont assisté déjà la première fois, il y a un an à Vienne, à cette assemblée des pays de l'ONU signataires engagés pour l'élimination totale des armes nucléaires. Mais la France, la Grande-Bretagne et leurs acolytes de l'OTAN tournent le dos. Ils n'y vont pas pour l'instant. Qu'attend l'Allemagne pour les convaincre? La France et l'Allemagne ont signé un 22 janvier 1963 un merveilleux traité d'amitié. Qu'en reste-t-il? Qu'en reste-t-il? Pas de nos amours. Qu'en reste-t-il de nos engagements contre la guerre? Cette semaine, donc, contre les armes nucléaires prend fin demain. Et nous attendons aujourd'hui au studio l'appel de Patrice Bouvray, qui est directeur de OPSAM et co-porte-parole de ICANN France, c'est-à-dire l'ONG auprès de l'ONU qui fait tout son possible pour promouvoir les signatures pour le traité d'interdiction des armes nucléaires. Et ICANN France vient de publier une bande dessinée sur ce Tian, expliquant le processus de création pour lequel, en 2017, pour ceux qui ne le savent pas, ICANN a reçu le prix Nobel de la paix. Pour le moment, elle n'a que le prix, mais pas la paix. Mais nous sommes là pour y travailler. Tous ensemble, joignez-vous à ce combat qui sauve l'honneur de l'humanité. Jean Jaurès avait dit, le seul combat qui vaille la peine d'être mené, c'est le combat contre la guerre et pour la paix. Parole de Jean Jaurès. Donc, cette bande dessinée publiée par ICANN France, qui vient de sortir, ça peut être un très beau cadeau de Noël. Songez-y, vous trouverez les références sur le site internet d'ICANN, sur le site de l'Union pacifiste, sur le site de Mouvement de la paix, qui est évidemment grandement associé à ce combat contre les armes nucléaires, pour le désarmement, pour le cessez-le-feu, contre le climat mortifère qui nous assassine aussi, parce que les armes nucléaires polluent énormément dès la production. Avons-nous de l'uranium en France? Avons-nous de l'uranium en Grande-Bretagne, en Allemagne? Eh bien non, niet. Ça vient des pays colonisés. Rappelez-vous les récents événements en Afrique centrale. Le Moyen-Orient, grand réservoir de pétrole, c'est pas pour rien que là-bas, les gens sont à... Tout est à feu et à sang. Et ça semble s'étendre, comme vous savez. Alors, je voudrais vous faire respirer avant de continuer. Et Ariel, qui est à la technique, va vous faire entendre une chanson de circonstance.
Intelligence. Si nous parlions un peu d'intelligence, l'intelligence est-elle une vertu? L'intelligence est-elle l'apanage de certains, de certaines classes sociales, politiques, corporatives? L'intelligence est-elle réservée à une élite? Peut-on parler d'intelligence dans tous les domaines? Justement pas. Tenez, au hasard, prenons l'armée. L'intelligence est-elle une vertu militaire? Une qualité militaire? Pas précisément, au contraire. On parle plutôt de stratégie. Strat-é-gie. L'avers et le revers du même phénomène. Strat, ce sont les couches de terrain sous lesquelles, plus tard, on couche, on gie. Un bon exemple de langue de bois. Car les militaires, comme tout corps de métier, ont leur langue de bois. Pas de boa ni de vipère, j'ai dit de bois. Leur, comment dire, adversaire, souvent d'une autre langue et d'un autre bois, paraît-il, après s'être frottés à eux et avoir constaté de quel bois ils se chauffent, s'échauffent et se réchauffent, de quelle botte ils se chaussent et à quelle sauce on les boit, récoltent jambes de bois, croix de bois, petites boîtes en bois et autres déboires. La stratégie, c'est l'habileté à venir à bout de l'ennemi. Et avant cela, c'est l'art de se choisir un ennemi. On nomme ainsi dans le langage militaire la ou les, de préférence personne, le ou les pays sélectionnés pour tester la puissance, l'argumentation, la conviction d'une armée. Car sans ennemi, pas de stratégie. Sans stratégie, guerre de guerre. Sans guerre, pas d'histoire. Car les gens heureux n'ont pas d'histoire et ne font pas d'histoire. Et sans histoire, évidemment, pas de bon exemple pour illustrer l'enseignement que l'on peut écrire indifféremment avec un E ou un A. Enseignement de nos chers à canon. Non, de nos chères petites têtes bleu, blanc, rouge. Bleu comme la ligne des faux jeux, blanche comme tous les morts des champs de bétail, rouge comme les fleuves de sang qui prirent leur source dans ces corps encore vivants pour se jeter dans la mer, tume, dans la mer posthume, dans la terre avide, aride, acide, assidûment nourrie ainsi, depuis que l'immonde est monde. Sans histoire, pas d'exemple patriotique, pas de repère temporel, pas de culture, pas de sépulture, pas de futur. La stratégie, c'est l'intelligence de l'armée. Tout comme le mollet est l'intelligence du coureur, le collet l'intelligence du braco et la muleta l'intelligence du torsionnaire. Pourtant le militaire, lui, non, il s'agit du pronom personnel, pas du verbe « luire ». Le militaire ne parle pas d'intelligence. Ou quand il en parle, c'est avec une connotation très négative, condamnable, chargée de déshonneur. En effet, le militaire, lorsqu'il parle d'intelligence, c'est d'intelligence avec l'ennemi. Ce qui veut bien dire que les deux termes sont incompatibles, inconciliables, inconcevables. On ne peut agir envers l'ennemi avec intelligence, sous peine de s'attirer les foudres des foudres. S'il y a ennemi, il n'y a pas intelligence. S'il y a intelligence, il n'y a pas ennemi. L'intelligence avec l'ennemi, c'est traiter l'autre, l'adversaire, le méchant, l'étranger, le danger, comme s'il était l'autre, le partenaire, l'ami, le semblable, le frère. C'est grave, ça. Le militaire a œuvré, manœuvré, sabré, châtié, chassé, ressassé des années durant, fabriqué un ennemi, préparé le terrain, séparé les territoires, les terroirs, les tiroirs, les mouroirs, dénoncé ce démentiel démoniaque. Et voilà qu'un rebelle, un félon, un filou, un vilain, un faquin, un coquin, fantasque fauteur de troubles et troubleur de troupes, antipatriote, peut-être même pacifiste, viendrait saper tout le travail de la famille patrouille et tout le moral des joueurs. L'intelligence, c'est la capacité à comprendre, à réfléchir, à penser. L'intelligence, c'est l'aptitude à agir avec discernement. L'intelligence, c'est une propension à se poser des questions sur les choses, les éléments, les événements. L'intelligence, c'est l'art d'analyser l'information, d'interpréter une situation, de donner son avis, son opinion, de dire oui ou non, et d'agir de sa propre initiative, de son plein gré, en son âme et conscience. L'armée exige, elle, tout le contraire. Obéissance, soumission, discipline, ordre. Toi, citoyen, toi, individu, toi, numéro parmi les non-héros, ombre parmi les ombres, nombre parmi les nombreux zombies fabriqués, formatés, fortement matés, pressurés, essorés, restaurés, dévorés, décorés, enterrés, atterrés. L'armée pense pour toi. Elle pense, donc tu suis. Tu n'as qu'à obéir et lui faire confiance. Si chacun se mettait à penser par soi-même, où irions-nous? Et où irait le monde? À la paix, sans doute.
Merci Yves Lecoeur. Le business avec l'ignorance de la jeunesse, il faut que ça cesse. La jeunesse doit cesser d'être maintenue dans des idées fausses sur la guerre, des idées fausses, fallacieuses, mensongères sur la patrie. Aujourd'hui, la patrie, c'est toute l'humanité. Nous avons trop progressé dans nos capacités de destruction. Nelson Mandela, que disait-il? La destruction est trop facile. Tout casser, c'est trop facile. Construire, ça demande des ménages en bon ordre, en bon fonctionnement. Construire la paix, c'est un effort et ça ne tombe pas du ciel comme les bombes. Construire, ça demande la confiance en soi et non pas une armée de hussards de la République qui vous font désespérer de votre avenir en vous donnant un certificat de nullité quand vous avez 15 ans et que vous devenez donc les proies du SNU. C'est quand on a désespéré de soi-même, de ses capacités d'apprendre, qu'on se réfugie dans ce havre polluant, toxique, mortifère qu'est l'armée. On perd toute son humanité à l'armée, alors que nous avons aujourd'hui plus que jamais les outils pour développer notre cerveau préfrontal, pour prendre mieux en main nos pulsions reptiliennes, le cerveau archaïque, où siègent les émotions qui souvent nous fourvoient. Ça doit être enseigné. Je vais vous lire maintenant un autre texte de l'Union pacifiste de Limoges. Tout va très bien, Madame Borne. Tout va très bien grâce aux renseignements généraux de la DGSI. Vous savez que c'est le groupe Limousin de l'Union pacifiste au sein de la section française de l'Internationale des résistantes et résistants à la guerre qui vous parle. L'IRG, l'Internationale des résistants à la guerre, a été créée en 1920, un an après la création de la SDN. Nous y voilà, la SDN, la Société des Nations, le préliminaire de l'ONU, qui a malheureusement échoué et a été supprimé en 1945. L'Allemagne est sortie de la SDN sous l'effet de la dictature nazie. Et bien d'autres pays, la Russie, y a séjourné quelques années seulement, mais là a été expulsée en 1939 à cause de son agression en 1939. Et bien d'autres déboires ont fait échouer lamentablement la Société des Nations. Mais en un an après, on a repris notre courage à deux mains et on a créé l'ONU, qui existe maintenant à Genève, à l'UNESCO, à Paris, pour ce qui concerne la culture et l'éducation, et à New York, où il y a le siège, où se tient cette semaine, la semaine contre les armes nucléaires. Tout va très bien, Madame Borne. Il reste la brioche à l'hôtel Matignon. Aucune coupure d'électricité à l'horizon. Aucun chirurgien prêt à trancher dans le vif du corps constitutionnel pour extirper la tumeur de l'article 49.3. Le budget de l'armée est, lui, de 43,9 milliards pour une année. Mais aucun élu n'a osé rappeler que le seul niveau tolérable, c'est 0 euro. Ruiner le secteur de l'armement, c'est dès aujourd'hui faire pointer à Pôle emploi les 200 000 salariés français de l'atrocité de l'armement. Autant de gagner sur les 413,3 milliards de la loi de programmation militaire votée le 13 juillet de cette année. Et donc sur les 250 000 soldats des census militaires. Et pour l'école, des fariboles. Et pour les retraites, des clopinettes. Tout va très bien, Madame Borne. Restons à l'abri. S'il pleut des bombes sur Gaza, et non pas sur Zaporijja, la plus grande centrale nucléaire européenne en Ukraine, c'est qu'en Palestine, Rosatom, l'ancêtre, le successeur d'Areva, n'a pas voulu construire de centrale nucléaire en Palestine. Depuis Tchernobyl et Fukushima, qui ignore que les réacteurs atomiques écologiques pour l'éternité pètent sans qu'il soit besoin de les bombarder? Tout va très bien, Madame Borne. McKinsey a demandé d'interdire les manifestations pacifistes. La France ne fait la guerre que contre les agresseurs, pour défendre les droits, la liberté, la démocratie, les peuples opprimés, le prolétariat, le pétrole, et même pour la paix. Appeler au cessez-le-feu, c'est du terrorisme, car ça fait peur aux profiteurs de guerre. Or, force est de constater qu'il est impossible d'obtenir la paix en préparant son contraire, la guerre. C'est toujours des pauvres gens qui se massacrent et non pas les plus riches. Pourquoi en 2023 y a-t-il encore des guerres? Qui profite de ce crime contre les peuples? Qui invente des ennemis partout afin de régner par la terreur et la soumission? Qui donc prémédite tous ces meurtres de masse dont profitent les profiteurs de guerre? Tout va très bien. Les patrons milliardaires comptent les sous de la manufacture et du commerce des armes. c'est une source de corruption et de profits ahurissants pour les gros détenteurs de capitaux. L'argent du crime permet aux oligarques, sans souci des frontières, d'acheter journaux, télévisions, médias virtuels et même de financer des politiciens racistes avec un lavage permanent des cervelles au patriotisme. Ils font croire à la population qu'il faut renforcer la défense, être prêt à la guerre pour avoir la paix. Quel pipeau! Or, il est évident que la paix ne peut se construire qu'en désarmant. Il faut apprendre à désarmer les autres et nous-mêmes. Ôtez l'armée et vous supprimez la guerre. Qui c'est qui l'a dit? Très célèbre. Ôtez l'armée et vous supprimez la guerre. Notre cher Victor Hugo. Il était aussi un fervent antimilitariste, un fervent poète qui rêvait d'une autre Europe que celle qui est la nôtre à l'heure actuelle. Le prix de la paix ne sera jamais aussi ruineux que le prix de la guerre. On ne construit rien avec la mort. On peut tout espérer de la vie. Tout va très bien. La guerre n'existe à Gaza comme en Israël ou ailleurs que parce que des individus obéissent à de soi-disant chefs. Choisir de porter des armes, c'est accepter d'assassiner d'autres humains, même dans au SNU. Le SNU n'est pas une colonie de vacances. On accepte à assassiner d'autres humains. Or, l'IRG prouve qu'il y a partout sur Terre de courageux objecteurs de conscience, opposés en toutes circonstances au port d'armes. Il s'agit des véritables pionniers d'un monde sans guerre. Parole d'Albert Einstein. Les objecteurs de conscience, je répète, sont des véritables pionniers d'un monde sans guerre. Aujourd'hui, il y a plus de 25 000 déserteurs russes et 7 000 déserteurs ukrainiens. Et beaucoup plus. À part le Bureau européen de l'objection de conscience, qui est à Bruxelles, le BEOC, l'Association internationale des travailleurs et l'Observatoire des armements, qui ose le dire? En France, grâce à la ténacité d'un Louis Lecoing, qui nous a quittés en 1971. Le droit à l'objection de conscience a été reconnu en 1963. Je vous rappelle, c'est l'année du traité d'amitié franco-allemand. Sans lui, pas de respect du droit à la vie. L'article 3 de la Déclaration universelle des droits humains, adoptée à l'ONU en 1948, est violée par l'existence même des armes, des milices et de tous les fanatiques fous de violence et de vengeance. Et là, je voudrais faire une parenthèse consacrée à la peine de mort, qui a été aboli en Europe en 1943 grâce à monsieur l'éminent Robert Badinter, garde des Sceaux, qui a obtenu l'abolition complète de la peine de mort en France. Mais elle était déjà abolie dans beaucoup d'États. Même Israël a aboli la peine de mort en 1954. Donc la France en 81, l'Allemagne en 49, la Turquie l'a abolie, l'Arménie l'a abolie qu'en 2003, parce qu'elle est encerclée d'ennemis, hélas. La Suède l'a abolie en 1921. La Russie l'avait abolie en 1999. Maintenant, elle l'a suspendue. En 96, en Russie, a eu lieu la dernière exécution de la peine de mort. Et maintenant, elle est suspendue. C'est-à-dire, ils vont la remettre dès que ça les chantera. Scélérat, traître à l'humanité. Il y a beaucoup d'autres pays, bien sûr, qui l'ont supprimé. La totalité des pays de l'Union européenne. Et pourtant, ils osent faire la guerre, bombarder des civils. C'est les condamner à la peine de mort, alors qu'ils sont innocents. Où avez-vous vos têtes ? Vos têtes sont brûlées, mais pas vos dollars, pas vos comptes offshore. Le fric, c'est la seule chose qui vous importe. Les armes nucléaires, Nonik, c'est une question de fric aussi. Je continue l'article de l'Union pacifiste de Limoges. Tout va très bien à l'ère de l'informatisation de la planète. Qui peut encore se croire menacé par autre chose que par les gens porteurs d'armes? Les trémolos patriotiques du président de la République, les incantations à la légitime défense ne trompent personne. À chaque fois est invoquée la faute de l'autre, la faute de l'ennemi, par exemple l'agresseur russe ou le Hamas, et oublier les grossières provocations de l'organisation terroriste de l'Atlantique Nord ou de Tsahal. Lorsque un pays en envahit un autre, il construit forcément la révolte. Parmi les révoltés, il engendre des groupuscules armés qu'il favorisera tant qu'ils lui seront utiles et éliminera au-delà. Un pays colonisateur repose sur le terrorisme. Israël agit aussi en terroriste. Force est de le constater à nouveau dans cette guerre fratricide en Palestine. Pourquoi assassiner les enfants des deux côtés? Ils n'ont rien fait. Pourquoi la peine de mort? De fait, en les bombardant. Ne vous ressemblez-vous pas tous de tous bords? Rien ne va plus, Madame Borne. Le seul pays vainqueur, c'est celui qui ne se bat pas. Pas un seul des maux que l'on veut éviter par la guerre n'est un mal aussi grand que la guerre elle-même. Un autre grand intellectuel, prix Nobel, Bertrand Russell, l'a dit. En 2023, Hitler semble gagner encore la guerre. Il n'existe pas d'armée qui ne soit pas fasciste. Citoyennes, citoyens, si nous ne voulons pas tous crever, agissons pour abolir le service national universel, pour interdire les jouets guerriers et pour supprimer l'armée. Merci, le groupe Limousin de l'Union pacifiste. Abonnez-vous.
Comme de puissants avatars, narco-avatars, c'est menaçant. Les loups sont dans tout le pays, croient en avant, la rage aux dents. Ils se mélangent aux brebis en attendant le bon moment.
L'ombre d'Al-Nasra perdu et de Dracula Al-Qaïda sur la ville s'est étendue, semant la terreur et l'effroi.
Dans les bas-fonds, dans les ghettos, dans les villes, dans les campagnes, gros de masques et incognito.
Le monstre de Prop Daesh.
Rien à dire, rien à comprendre, car comprendre c'est excuser. Qu'excuser, c'est déjà défendre, et défendre c'est cautionner.
Dans les tours et les escaliers, la marée l'épouse pour la postérité.
Mais ce genre de créature, cette espèce tentaculaire, aux ramifications obscures, n'en a cure et se régénère. Rien à dire, rien à comprendre, car comprendre c'est excuser. Qu'excuser, c'est déjà défendre, et défendre c'est cautionner.
Plus rien ne sera comme avant. Les petits soucis quotidiens, l'insouciance du bon vieux temps laisse la place à l'incertain.
Le président nous interpelle sur le perron de son palais, exprime en termes solennels
la victoire, je vous la promets.
Oui, oui, bravo.
C'est la terreur dans l'hexagone, super du pompette de trous.
Et le roi déconne sur son trône, à le tricolore qui pompe.
La chanson française est malade. Rien à dire, rien à comprendre, car comprendre c'est excuser. Qu'excuser, c'est déjà défendre, et comprendre c'est compliqué.
Voilà, l'ennemi est démoniaque. La victoire, on vous la promet. Voilà le résumé de la propagande de guerre que l'on nous sert en 2023, digne d'un élève, d'un môme de la classe de 5e. Et vous allez croire encore ces balivernes. Mélissa Park, ancienne ministre australienne du développement international, est maintenant à la tête d'une ONG qui lutte contre l'arme nucléaire. Et elle alerte sur les risques de déclenchement d'un conflit atomique, comme vous savez tous, par les multiples médias qui nous en informent. Mais ce n'est désormais plus de la science-fiction. La course a débuté autour de l'application de quoi ? De l'intelligence artificielle au système d'armement nucléaire, de mieux en mieux. Une évolution susceptible d'accentuer la probabilité d'une guerre nucléaire. Mais pour les dirigeants mondiaux, mais pour que les dirigeants mondiaux, pardon, la saisissent, il va falloir admettre que la menace est sérieuse. Le président américain Joe Biden a pris un décret présidentiel établissant de nouvelles normes autour de la sécurité de l'intelligence artificielle. Le Royaume-Uni a également agi en ce sens, avec pour objectif de veiller à ce que cette technologie soit développée de manière sûre et responsable. Or, c'est une menace pas suffisamment prise en compte, dit Madame Mélissa Park. Elle est maintenant chef exécutif de l'ICON aussi. C'est pour ça que je vous lis son petit... sa tribune au Monde, hein, ce que je vous lis là, est une tribune qu'elle a publiée au Monde, au journal Le Monde, publiée le 20 novembre, donc il y a quelques jours. Donc elle aussi, elle lutte pour l'abolition des armes nucléaires. De même, bien que Mr. Biden ait expliqué qu'une compréhension commune des risques soulevés par l'intelligence artificielle avait émergé, le Premier ministre britannique Rishi Sunak n'a mentionné nulle part la menace élevée que représentent les applications d'intelligence artificielle relatives aux armes nucléaires. Je vous rappelle aussi que les États-Unis n'ont jamais fait partie de la Société des Nations et ils ne sont plus, depuis fort longtemps, membres de l'ONU. Ça en dit long de leur engagement pour la paix. Ils préparent pas la paix, ils préparent depuis fort longtemps la guerre parce que ça rapporte aux milliardaires qui se croient au-dessus de tout à l'abri de tout. Il est trop facile de tout casser et de tout détruire. Il n'y a aucune gloire, aucun espoir, aucune sécurité là-dedans. L'éducation par le drone, c'est se mettre un missile dans les bonbons. Les vrais héros, comme disait Mandela, ce sont ceux qui font et préparent et construisent la paix. Alors, pour faire bonne mesure, parce que la COP est pleine, la coupe est pleine de la COP 28 qui se déroulera demain, je vais vous lire la lettre de démission de Craig Mochiber, le directeur du bureau de New York du Haut Commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies. Cette lettre de démission qu'il adresse au directeur de l'ONU à Genève, qui s'appelle Volker Türk, commissaire aux droits de l'homme et directeur donc du Palais Wilson de l'ONU à Genève. Il a écrit cette lettre de démission le 28 octobre 2023. Donc ça fait exactement un mois. Cette lettre, je l'ai trouvée dans le dernier numéro de Planète Paix, le mensuel du mouvement de la paix. Je vous lis quelques extraits. Ô commissaire, nous sommes en train d'échouer encore une fois. En tant qu'avocat des droits de l'homme, ayant plus de 3 décennies d'expérience dans le domaine, je sais bien que le concept de génocide a souvent fait l'objet d'abus politiques. Mais le massacre général actuel du peuple palestinien, prenant sa racine dans une idéologie coloniale ethno-nationaliste, dans la continuité de décennies de persécution et d'épuration systématique, basée exclusivement sur leur statut d'arabe et couplée aux déclarations d'intention explicites des dirigeants du gouvernement et de l'armée israélienne, ne laisse aucune place au doute ou au débat. À Gaza, des maisons, des civils, des écoles, des églises, des mosquées et des établissements médicaux sont attaqués sans raison et des milliers de civils sont massacrés. En Cisjordanie, y compris à Jérusalem occupée, des maisons sont saisies et réaffectées uniquement sur le critère de la race et les pogroms violents des colons sont accompagnés par des unités militaires israéliennes. Partout dans le pays, les règles de l'apartheid, comme en Afrique du Sud, sont appliquées. Mais il ne s'agit en aucun cas de faire l'amalgame entre le peuple et la population générale juive et l'État qui dirige Israël. Ce sont deux choses à ne pas amalgamer, à ne pas confondre, à ne pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est trop facile. Il s'agit en Palestine d'un cas d'école des génocides. Il a employé le terme anglais « textbook genocide ». Ça a été bien traduit par « un cas d'école de génocide ». Le projet colonial européen en Palestine, ethno-nationaliste, est entré dans sa phase finale. Ça a commencé avec Sykes-Picot. Vers la destruction accélérée des derniers vestiges de la vie palestinienne autochtone en Palestine. Parallèlement, les grands médias occidentaux, de plus en plus dépendants et proches de leurs États, violent ouvertement l'article 20 du PIDCP, déshumanisant continuellement les Palestiniens pour faciliter le génocide, diffusant de la propagande en faveur de la guerre et un appel à la haine, raciale ou religieuse, nationale, qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité et à la violence. Des décennies de perturbations par les promesses illusoires et largement fallacieuses, par exemple d'Oslo, ont détourné l'ONU de son devoir principal, la défense du droit universel, international, des droits internationaux de l'homme, de la charte elle-même, qui s'enracine dans la Révolution française. J'ajoute ceci entre parenthèses, qui s'enracine dans la Déclaration universelle du droit de l'homme, née sous la Révolution française en 1789. Je ferme la parenthèse. Le mantra de la solution à deux États est devenu une plaisanterie ouverte dans les couloirs de l'ONU, tant pour son impossibilité totale de fait que pour son incapacité totale à prendre en compte les droits humains inaliénables du peuple palestinien. Le soi-disant « quatuor » n'est plus qu'un cache-misère pour l'inaction et la soumission au statu quo brutal. La déférence scénarisée par les États-Unis pour les accords entre les parties elles-mêmes à la place du droit international a toujours été un clair affront destiné à renforcer le pouvoir sur place d'Israël, sur les droits des Palestiniens sur place, occupés et dépossédés. « Oh, commissaire, je suis arrivée à cette organisation pour la première fois dans les années 80, donc ça fait un bail, parce que j'y ai trouvé une institution fondée sur des principes et des normes qui étaient clairement du côté des droits de l'homme, y compris dans les cas où les puissants États-Unis, le Royaume-Uni et l'Europe n'étaient pas de notre côté, c'est-à-dire du côté de l'ONU. » Alors que mon propre gouvernement, j'ajoute que ce directeur, ce haut commissaire Craig Moriber, a la nationalité américaine et il a des racines au Liban. Il est orthodoxe, de religion orthodoxe, mais ça c'est moi qui vous le donne en explication pour comprendre quand il dit... excusez-moi. Quand il dit, y compris dans le cas où les puissants États-Unis, le Royaume-Uni et l'Europe n'étaient pas de notre côté, alors que mon propre gouvernement, voilà, quand il dit mon propre gouvernement, Craig veut dire les États-Unis, ces institutions subsidiaires et de nombreux médias américains soutenaient ou justifiaient encore l'apartheid sud-africain, l'oppression israélienne, et même les escadrons de la mort d'Amérique centrale dans les années 80. L'ONU défendait les peuples opprimés de ces terres. Nous avions le droit international de notre côté. Nous avions les droits de l'homme de notre côté. Nous avions les principes de notre côté. Notre autorité était enracinée dans notre intégrité, mais pas plus. C'est une ironie historique stupéfiante que la Déclaration universelle des droits de l'homme, en abrégé DUDH, Déclaration universelle des droits de l'homme, ait été adoptée l'année même où la Nakba, c'est-à-dire la catastrophe contre le peuple palestinien en 1948, a été perpétrée contre le peuple palestinien, dont nous commémorons aujourd'hui le 75e. Anniversaire. Et je m'arrête là de la lecture pour vous permettre de respirer. Et dans 10 minutes, malheureusement, notre émission touche déjà à sa fin.
Française, Français, cher Gaulois réfractaire, voici une nouvelle allocution en pleine crise sanitaire. C'est la 9e fois en 2 ans que je prends la parole sans que me soit décompté le moindre temps de parole. Je me suis dit que ça vous plairait d'avoir un président qui slame. C'est vrai que ça change de tous ces gens qui parlent que d'islam. Mon flow à moi est sans égal, à vous, tu kiffes mon son. Mais c'est fini, grand corps malade, maintenant c'est grand corps Macron. Si j'ai la voix grave, croyez pas que c'est que j'ai trouvé du bon shit. Pour vous dire la vérité, c'est juste que je sors d'une bronchite. Ouais, j'ai mué. Les temps ont bien changé depuis l'époque où je criais comme un ado. C'est mon projet! T'as cru que c'était la teuf? Eh, c'est la pandémie, gros. Alors que le variant Omicron sévit, moi je me mets au micro pour vous dire de vous vacciner. Une troisième injection s'impose pour vous sauver. Désormais, je vois la vie en dose. Refrain.
You are the only one.
Ouais, je suis le seul. On a mis un truc en anglais au milieu. Influenceur et président, je sais parler la langue des jeunes. Siva, t'as vu comment je suis trop stylé, cool, fun. Comme je le disais dans ma dernière vidéo sur TikTok, mon quinquennat, il est parfait. Ouais, mon bilan, il est tip-top. Alors je ressors une à une mes antiennes ultra-libérales. Tous ces trucs qui font qu'en une, chaque matin, libéral. L'avenir appartient à ceux qui quittent leur lito et à ceux qui font des feats avec McFly et Carlito. C'est moi le nouveau Jedi des centrales EPR hors de prix. Dans les couloirs, j'entends qu'on me surnomme l'Obi-Wan des lobbies. S'il se mettait à éditer un journal chez EDF, c'est sûr qu'il me proposerait d'être leur réacteur en chef. Comme il paraît que pour gagner, faut séduire les chasseurs, j'ai décidé d'ouvrir la chasse aux chômeurs. Pour les remettre au turbin, j'ai des idées à l'appel. Moi qui ai supprimé l'ISF et baissé l'APL. Faut arrêter les allocs, l'assistanat moyenâgeux. Ne pas oublier en rentrant d'acheter 2 douzaines d'œufs, 3 briques de lait pour faire des crêpes et 2 mottes de beurre. Attendez, c'est qui l'abruti qui a écrit ça sur mon prompteur? Refrain. Ouais, mais si tu mets ta liste de courses sur mon prompteur, ce... Hey, mais comment tu veux que je fasse mon alloc là? Non, pas mon allocation, mon allocution. Merci Brigitte. Faut arrêter les allocs. L'assistanat moyenâgeux. Hors de question que ma politique finance la française des gueux. Le fric, il faut qu'on le file aux banques, c'est élémentaire. En continuant d'alimenter les fils des banques alimentaires. Mais j'ai du cœur. Ouais, j'ai décidé de battre en retraite, de laisser à mon successeur la réforme des retraites. Ça me fait rire de dire successeur, car dans l'idée, j'ai la pas trop secrète intention de m'auto-succéder. Avouez que c'est humain. Et si le matin à l'Élysée, on vous donne des sondages à lire, eh ben, vous les lisez. À gauche, ils sont 10 000. À droite, Zemmour tient la gamelle. J'ai l'impression que je suis pile entre les Schtroumpfs et Gargamel. Moi j'agis et je soutiens les chalutiers dans leur malheur. Toute la journée de mes deux mains, je prie pour vous, pauvres pêcheurs. Et puis je vous jure qu'il n'y aura plus de féminicide bientôt. Je le jure sur le féminisme de Nicolas Hulot. Mes chères Françaises, mes chers Français, pour finir cette allocution, je voulais simplement vous rappeler qu'en avril, bah, il y a élection. Et que même si je suis pas encore officiellement candidat, je croise les doigts que mes électeurs, eux, n'auront pas d'extinction de voix. Je pourrais continuer longtemps à faire des bons calembours, mais je sens que vous vous dites, il commence à être lourd. Alors je vous laisse, je vais prendre mes pastilles pour les cordes vocales. Jean Castex, à demain. Et Gabriel Attal.
Voilà, cessez le business avec l'ignorance de la jeunesse. Cessez votre business dégueulasse en recrutant les jeunes perdus à la ramasse, susurrant à leurs oreilles innocentes les rêves militaires d'aventure, où ils ne pourront que crever. Alors, dernier chapitre, rapidement, le SNU. Je vais vous lire un dernier article qui vient de paraître dans notre numéro de décembre, que je vous recommande chaleureusement de lire et de vous abonner à l'Union pacifiste. Le collectif non au SNU d'Île-de-France s'oppose à la généralisation à marche forcée du service national universel qu'il considère comme l'aboutissement d'une forme de militarisation de la jeunesse. Ce collectif regroupe des parents, des lycéens, des enseignants, des professionnels de l'éducation populaire et des associations agréées jeunesse et éducation populaire. Des militants des syndicats Sud Solidaire, CNT, CGT, MNL, Émancipation et des membres de l'Union Pacifiste et de la Libre Pensée. Nous ne tolérons plus la réappropriation par le gouvernement de termes qui nous sont chers. Émancipation, engagement, aventure, qui les détourne de leur sens en les pervertissant. À ce jour, le gouvernement se tient à des mesures incitatives et perpétue le principe du volontariat, mais l'idée d'en faire une condition pour l'obtention du permis de conduire, du BAFA ou de l'intégrer dans Parcoursup est envisagée. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a aussi annoncé dans le cadre de la reconquête du mois de juin l'obligation pour des élèves de seconde générale ou technologique d'accomplir 2 semaines de stage en entreprise, dans l'administration ou au sein d'une association. Celles et ceux qui échoueraient à trouver un employeur auront l'obligation de participer au stage de cohésion. Et je vais vous faire part aussi d'un petit scandale, un parmi d'autres, qui s'est déroulé durant ces stages de SNU. Un encadrant a été suspecté de harcèlement sexuel sur une jeune de 16 ans. C'est paru le 27-11 chez Mediapart. C'est une référence. L'embarras de la secrétaire d'État est à la mesure de l'ambition gouvernementale pour le SNU. Farouchement porté par Emmanuel Macron depuis 2017, ce dispositif, lancé en 2019, a été pensé pour offrir à terme un encadrement à des centaines de milliers de jeunes de 15 à 17 ans. Il a touché 32 000 participants et participantes en 22, 40 000 en 23 et devrait concerner 80 000 jeunes en 24. Et désormais, des classes entières de lycéens et de lycéennes pourront y participer. Donc, sa généralisation à toute une classe d'âge est régulièrement évoquée par le gouvernement, sans que l'on sache pour le moment si le pays est même en mesure de fournir l'encadrement et la logistique nécessaire. Alors, il y a des plaintes dont nous avons eu connaissance par des encadrants. Par exemple, Raphaël, un ex-capitaine du SNI, on n'est pas du tout formé à ça. C'est du gros bricolage et une catastrophe en termes d'inclusion. Quand j'ai été recruté, dit-il, c'est allé très très vite, c'était un petit entretien à l'oral et c'est tout. Et le temps de formation est très réduit. Ils embauchent sans grande expérience et sans formation sérieuse, et ça crée évidemment beaucoup de problèmes sur les jours. L'ex-capitaine, une autre personne de sexe féminin, qui est travailleur social, insiste sur la difficulté de prendre en charge des jeunes qui peuvent avoir un handicap physique ou psychologique. Il est loin d'être seul d'être recruté de cette façon. Au secrétariat d'État à la jeunesse, on a donc décidé d'améliorer la formation sur un point, parce que les plaintes sont de plus en plus nombreuses, des plaintes de femmes qui n'auront finalement pas été vraiment entendues. Un encadrant harceleur a cependant été éjecté et n'a plus été recruté pour le SNU. Mais son cas a déclenché d'autres conflits avec un autre participant. Je vous en fais grâce parce que nous touchons à la fin de notre émission. En tout cas, le gouvernement s'est engagé à la demande de Prisca Thévenot que tous les encadrants seront formés pour permettre la prévention des signalements, mais aussi la formation à la sensibilisation aux comportements sexistes et sexuels. A-t-on assuré ? À médiate part, ben, il vaut mieux l'abolir totalement et former les jeunes à se défendre de façon non-violente et à instaurer dans le secondaire et le primaire une véritable compétence d'autodéfense non-violente et désarmante. On compte sur vous, engagez-vous, écrivez-nous, abonnez-vous à l'Union Pacifiste, section française de l'Internationale des Résistants à la Guerre. Nous avons un local au 66 boulevard Vincent Auriol, dans le 13e arrondissement. Écrivez-nous au mail Union Pacifiste en un seul mot, riseupnet, riseup.net. Nous avons notre site unionpacifiste.org. Et vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez. Mais ils ont oublié de mettre le numéro. Le numéro de Publico, 01 48 05 34 08. Défendez-vous, ne vous laissez pas faire, mais d'une façon non violente. Merci de votre écoute et bon courage pour tout.
Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Content devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Le jardin fut anglais, verte la mer et l'encre dans mes doigts se tachait. Le jardin fut anglais qui me creusa le ventre, la faim me nourrissait. Juste en dessous du monde, je cessais d'être ronde, presque je m'effaçais. Quand les
les pages des livres, je gagnais l'autre rive et j'y disparaissais. Je cherchais les poètes, fillettes, fillettes, la beauté de ce monde. Dans les pages des livres, je gagnais l'autre rive et j'y disparaissais. Un persan de passage me dit qu'il était sage, poète en son pays. Me dit qu'il était prince, me dit que j'étais mince et la taille me prit.